Mais d'abord, un sujet qui me touche toujours beaucoup, c'est ce dossier donc de la violence conjugale. Je vous le rappelle, l'histoire tient de Kaoula Grissa. Elle a tout fait pour fuir un conjoint violent, dis-je. Elle a déménagé, elle est allée dans une maison pour femmes violentées, elle a obtenu une décision du tribunal pour le garder loin. Mais ça n'a pas empêché l'ex-conjoint de se présenter et de la violer et de la menacer de mort. Je pourrais vous parler également du triple meurtre de Pointe-aux-Trembles qui est arrivé il y a un an de ça. Une maman de 42 ans, ses deux enfants de 2 et 4 ans qui ont été tués par l'ex, qui s'est par la suite enlevé la vie. Et là, aujourd'hui, là, Québec va dire, ben, une des façons de prévenir ces drames conjugaux et de protéger les victimes, c'est d'envisager le port, donc, de ce bracelet anti-rapprochement. Et on va en parler avec Walid Ijazi, avocat criminaliste. Bonjour, Walid.
Bonjour.
Alors, d'emblée, évidemment, moi, j'ai fait mes recherches, vous aussi, vous êtes très rigoureux. L'Espagne a installé ses bracelets, dis-je bien, vous voyez, depuis 2009.
Oui.
Depuis 2009, et depuis 2009, aucune femme n'a été assassinée par un homme qui portait ce bracelet électronique. Il semble que ça fonctionne. Est-ce que vous, en tant qu'avocat criminaliste, vous seriez favorable à ce qu'on évalue la possibilité d'implanter ça chez nous?
C'est une question complexe. C'est sûr que c'est une statistique qui frappe. C'est une statistique que je connaissais pas et quand je l'ai lue, ça a frappé. Est-ce que c'est fiable comme information? C'est une autre question, mais c'est quand même une statistique qui frappe. Et comme citoyen, soucieux de la protection des femmes, de mes sœurs, de ma nièce, bon, c'est sûr qu'on veut les protéger. Mais l'avocat est quelque peu perplexe ou se pose la question, s'interroge sur le phénomène. C'est intéressant, mais c'est d'un point de vue juridique potentiellement compliqué. Premièrement, ça serait une mesure qui est envisagée ou qui est à l'étude par le gouvernement de la province, le gouvernement québécois, mm-hmm. alors que fondamentalement, ça serait, si tant est qu'on l'adopte ou qu'on envisagerait sérieusement l'adopter, ça relèverait du fédéral, c'est-à-dire c'est une technique d'enquête ou c'est une technique policière, ça relève de la procédure pénale et au Canada, selon le partage des compétences, là, le droit criminel, alors ce qui relève du code criminel, c'est de juridiction fédérale. Alors ça, c'est un premier obstacle juridique de nature constitutionnelle, partage des compétences. Et je dirais plus fondamentalement, indépendamment du palier de gouvernement, comme personne soucieuse des chartes et de la protection des droits de la personne, alors c'est sûr que c'est intéressant d'un point de vue lutte contre la violence faite aux femmes, mm-hmm. mais je comprends que c'est un dispositif de géolocalisation, c'est une technologie GPS, ça serait un bracelet électronique à la cheville, alors ça serait intrusif au niveau vie privée. Là. C'est sûr qu'il y aurait une violation de la vie privée. Est-ce que c'est une violation justifiable pour un plus grand bien? Ben, il y aurait un débat constitutionnel à y avoir, mais c'est sûr qu'il y aurait de l'autre côté, là, ça viole la vie privée de la personne.
Oui. Oui, je comprends, mais comme vous le dites, il faudrait voir si c'est une limitation qui est raisonnable. Parce que si ça nous permet d'éviter des drames comme ceux dont j'ai parlé, je vous le rappelle, Walid, là, c'est 10 Québécoises en moyenne qui sont tuées chaque année dans un contexte de violence conjugale.
C'est sûr.
OK? Alors, si on est capable, grâce à ce dispositif-là, à ce bracelet, d'en arriver au même résultat que l'Espagne, puis de tomber à aucun décès, aucun meurtre, ou si, enfin, un, c'est toujours trop, mais mettons qu'on diminue ça de 10 à 5, de 10 à 3, de 10 à 0, il me semble que ça vaut à tout le moins ça vaut largement la peine de l'évaluer, là.
La statistique espagnole, encore une fois, elle est très frappante, ça frappe, ça porte à réfléchir. Mais d'un autre côté, d'un point de vue dérive, abus policiers potentiels, est-ce qu'on pourrait, de manière préventive, sans passer par la justice, que la police impose ça sur la cheville de quelqu'un, je vois pas ça potentiellement possible. Si tant est que ça serait éventuellement en vigueur, va falloir que ça passe par des ordonnances judiciaires. Lorsqu'on regarde le modèle français, je comprends que c'est strictement sur consentement pour le moment et que ça se fait au niveau de la détermination de la peine. Alors, peut-être que quelqu'un est accusé. Je ne sais pas comment le dossier se règle, mais c'est après l'arrestation, après le passage devant le juge et sur consentement seulement. Alors, c'est pas forcé, là. C'est pas... ici, si on réfléchit à un modèle, si on met de côté là, les considérations provinciales, fédérales, puis qu'on veut mettre ça en vigueur, ça serait dans le cadre d'une condition imposée par un juge lors d'une procédure. La personne est accusée, elle est détenue. Est-ce qu'on lui imposerait le bracelet pour favoriser sa remise en liberté? Peut-être. Ou on est à la fin des procédures, la personne elle est trouvée coupable. Comme substitut à l'incarcération, comme modalité de la peine, on pourrait imposer ce bracelet électronique-là. Ça serait potentiellement envisageable. On le fait déjà à un autre niveau avec les bracelets électroniques au niveau pour remise en liberté. Il y a des bracelets électroniques pour les remises en liberté, c'est-à-dire obtenir son consentement ou pour éviter de la prison. Là, on en voit depuis une dizaine d'années, la technologie existe. Maintenant, transposer ça au contexte conjugal, ça serait via un juge, si j'imagine, ça serait via un juge qui impose la condition.
Alors, mais actuellement, vous nous dites ça se fait, il y en a des bracelets électroniques, mais vous nous dites c'est dans quel contexte, répétez-moi ça encore, là, ça...
C'est pour les remises en liberté, c'est-à-dire la personne elle est détenue, elle est accusée d'avoir trafiqué une grosse quantité de stupéfiants. Généralement, la personne resterait détenue, mais elle offre, dans le cas d'une enquête caution, la possibilité de porter un bracelet, puis elle va défrayer les frais, par exemple. Puis la technologie, elle existe et on voit ça en justice depuis une dizaine d'années. C'est pas généralisé, mais ça existe. Là, on essaie de pousser ça un peu plus loin.
Ben oui, mais regardez, ça existe pour un trafiquant de drogue. Pourquoi ça n'existerait pas pour un batteur de femmes?
Alors, ça serait via une ordonnance judiciaire si la personne le consentirait. Alors, je dis pas que c'est impossible, immatériel et que c'est pas souhaitable, au contraire, mais à première vue, si tant est que ça serait potentiellement souhaitable, ça serait complexe. Alors, ça serait pas facile à mettre en œuvre du jour au lendemain, là, parce qu'il y a des considérations juridiques quand même importantes. Oui. Mais c'est vrai que ça existe dans un autre contexte. On voit des bracelets électroniques où on le propose, nous, pour favoriser la remise en liberté d'un client. Alors, on pourrait le proposer pour un client qui est accusé de violence conjugale.
Bingo, mais là, c'est bingo, nous. Bingo. Mais pourquoi c'est si compliqué, Walid, là? Vous êtes en train de me faire la démonstration que c'est possible. C'est possible.
Oui, mais c'est le défendeur qui le propose. Alors, c'est un peu à l'instar du modèle français où c'est sur consentement. Là, si c'est pas proposé, si on veut l'imposer à quelqu'un, c'est-à-dire indépendamment de la volonté du contrevenant ou du suspect, là, de la personne qui doit faire face à la justice, est-ce que la justice peut lui imposer le port d'un bracelet? C'est là où le débat il devient beaucoup plus complexe. Si c'est de consentement et que la technologie existe, il n'y a pas de problème. Mais mettons de côté, et là, ça nous rapporte au modèle français, la personne, elle est d'accord avec le processus. Si la personne n'est pas d'accord avec le processus, est-ce qu'on peut lui imposer? Ça amène des considérations constitutionnelles sérieuses quand même.
OK. Juste avant de se laisser, parlez-nous de ce qu'est un 810.
Oui. Bonne question. Un 810, c'est un ordre de garder, c'est une ordonnance de garder la paix. Ça, on voit ça en matière conjugale ou des chicanes de voisins ou des gens qui se sont battus, mais c'est un outil policier qui est imposé par le juge, mais c'est pas un procès. Alors, la personne, elle n'est pas accusée, mais il y a un contexte, il y a une preuve qui permet de raisonnablement craindre pour la sécurité de quelqu'un et on impose des conditions à la personne. Alors, la personne n'a pas été trouvée coupable d'un crime, elle n'a pas de casier judiciaire parce qu'on lui impose un 810, mais la justice lui impose des conditions. En anglais, on appelle ça un restraining order. Alors, des conditions d'interdit de contact direct ou indirect. On peut pas communiquer avec la personne et un périmètre. On ne peut pas se rapprocher de la personne. C'est un outil qu'on voit souvent en justice. À tous les jours, il y a des 810 qui s'appellent.
Mais le problème, comme on l'a vu, c'est que tu as des hommes violents qui se font imposer un 810. Et malheureusement, ils signent l'ordonnance, ils sont d'accord.
Oui.
Et dans les jours ou les semaines ou les mois qui ont suivi, ils agressent leur ex-conjointe ou dans certains cas, ils l'assassinent.
Ouais,
et donc, on pourrait, il me semble-t-il, imposer le 810 avec le bracelet. Et à ce moment-là, le 810, serait beaucoup plus, je dirais, beaucoup efficace. Plus en mesure, ben oui, beaucoup plus en mesure de protéger la sécurité de la femme parce que non seulement il y aurait un ordre de la cour, mais la femme saurait si le gars veut s'approcher d'elle, si le gars transgresse la zone, le périmètre de sécurité. Elle l'entendrait venir, bip, bip, bip. Puis là, tu dis aux enfants, vite dans l'auto, on sac notre camp, puis on fait le 911, puis on appelle la police.
Oui. Là, je réfléchis à voix haute. Réfléchis vraiment juste à voix haute, spontanément. Alors, la personne ne sait pas que sa victime reste à telle adresse ou ne sait pas que la personne se trouvait dans tel centre d'achat ou dans tel lieu, parce que, je veux dire, il ne sait pas. Il se retrouve à l'intérieur du périmètre qui lui est interdit. Ça lance un signal au poste de police. Lui, il est en train de mettre l'essence dans sa voiture. Il se fait arrêter. Il n'y a aucune raison, mais il se retrouvait à l'intérieur d'un périmètre qui lui est interdit et parce que le signal a été lancé à cause de son bracelet électronique. Alors, ça pourrait amener ce type de scénario-là aussi.
Mais c'est responsabilité, Walid, c'est lui qui a battu sa femme, là. C'est lui qui l'a agressé. C'est sa responsabilité de s'assurer qu'il n'entre pas dans un périmètre, mettons, de 10 km autour de la résidence de la dame. Ben, regarde, bonhomme, organise-toi, là.
S'il le fait sciemment, s'il le fait en toute connaissance de cause, bracelet, pas de bracelet, il est en situation de bris de condition, il s'expose à une accusation et à une peine. Là, je parlais du scénario parce que c'est sûr qu'à première vue, en anglais, je dirais « it sounds good », c'est sûr, ça semble bien. Mais après ça, le gars, il est en train de mettre de l'essence. Il ne sait pas que la victime ou la personne qui a peur de lui se retrouve à l'intérieur du périmètre. Le GPS lance un signal au poste de police. Ouais, okay. Il se fait arrêter à la station-service, il n'en a aucune idée.
OK, c'est elle qui bouge, vous voulez dire, là.
Exactement. Alors, bref, c'est un scénario très intéressant, mais c'est un scénario potentiellement complexe.
Mais à ce moment-là, le 10 km ou le 15 ou le 20 km, le périmètre de sécurité pourrait s'appliquer avec la résidence, par rapport à la résidence. Parce que là, je veux dire, un juge qui impose déjà un 810 puis un périmètre de sécurité, je veux dire, l'agresseur peut pas savoir que son ex s'est rapproché de lui pour aller magasiner ou je ne sais trop. Ça peut pas être sa responsabilité. Alors là, vous dites, ça se met à biper. Fait que elle, mais si elle n'est pas à sa résidence, à ce moment-là, elle peut décider de s'éloigner de l'endroit où elle est, là. Elle peut penser, tu sais?
Dans des ordonnances de indépendamment de l'existence d'un bracelet, les interdits de contact, ça existe déjà depuis longtemps en justice et c'est généralement en soi un outil très efficace, que ce soit dans une ordonnance de probation ou pour garder sa remise en liberté dans un cas de cautionnement ou un 810. Ça existe déjà. La personne qui viole la condition s'expose à une accusation. Il y a potentiellement de la détention. Et en soi, c'est un outil efficace. Mais il y a des exemples où les outils existants n'ont pas été suffisants. Vous avez énuméré quelques exemples. Ils sont sensiblement rares, mais ils existent et ils sont malheureux. Est-ce que l'outil du bracelet aurait pu les prévenir? Peut-être, mais c'est pas une situation qui sera facile à mettre en œuvre.
Okay.
C'est ça que je dis. Il y a matière à. Faut méditer sur le sujet, mais c'est potentiellement intéressant, c'est sûr.
On peut au moins l'étudier. Walid Ijazi, avocat criminaliste. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
OK. Ben, regarde. On va en reparler, là. Mais au moins, le gouvernement va se pencher là-dessus. Moi, je pense que là, c'est une bonne première étape. OK. Après la pause. Écoute, 300 plaintes de citoyens relativement à des aménagements cyclables, dont le fameux réseau Express Vélo là, sur la rue Saint-Denis, qui a tant fait couler d'encre cet été. L'Ombudsman, c'est bien Ombudsman, même si c'est une femme. Moi, je dirais l'Ombudswoman, ou enfin, peu importe. Elle va être avec nous après la pause, parce que c'est elle qui a recueilli les plaintes et qui les a analysées dans un instant.